Chapitre 13. Pendant 3 ou 4 jours, Farjol sortit peu, alla de son bureau à chez lui et se contenta de faire les courses strictement nécessaires. On ne le vit ni au cercle ni à la bourse. Il ne reçut pas de nouvelles du commandant, et même cette histoire cessa de le préoccuper momentanément. Il rencontra Brazier sur le boulevard et se contenta de le saluer de la main, ne voulant pas engager de conversation. D'ailleurs, il allait avoir l'argent bientôt, et avec de l'argent, on arrange tout. Le cinquième jour, vers 8 heures du matin, il fut éveillé par Emma. « Lève-toi, mon chéri, il y a quelqu'un qui te demande. » Farjol s'étira, ouvrit les yeux, aperçut la bonne devant le lit, grogna « Hein, quoi ?»« C'est, dit la bonne, un monsieur qui veut vous parler. » Il avait le réveil difficile à cause de ses anciennes habitudes de noctambulisme et il fit un mouvement de mauvaise humeur. « Quelle heure est-il donc ? » ?»« 8 heures moins le quart. On ne vient pas voir des gens à cette heure-là. Dites à ce monsieur de passer à mon bureau. » La bonne répondit « Ce monsieur a quelque chose de très important à vous communiquer. Il a ajouté qu'il se dépêche de s'habiller. »« Va donc voir ce que c'est. Tu viendras te coucher après, » dit Emma. Il mit à la hâte un pantalon, des pantoufles et un veston de flanelle. « Il est dans le salon ?»« Oui. » Farjol se trouva en présence d'un monsieur en paletot marron qui avait son chapeau sur la tête. Il s'avança. « Vous désirez ?» Le visiteur l'examina d'un coup d'œil rapide. « Vous êtes monsieur Farjol, René Farjol » dit-il. « Oui. » Alors il tira un papier de sa poche. « Voici un mandat d'amener contre vous. Je suis un agent de la sûreté. » Farjol, très étonné, crut d'abord à une erreur, mais l'agent continua. « Veuillez me suivre au dépôt. Vous pouvez prendre connaissance du mandat. » Farjol ne broncha pas, regarda machinalement le papier, puis le paletot marron du monsieur et ses souliers, dont un était crotté. « Vous êtes un agent de la sûreté. Je ne vois pas pourquoi on m'arrête. Vous vous expliquerez avec le juge d'instruction. Ce ne peut être que sur une plainte du commandant. » L'agent sourit. « Le juge d'instruction vous interrogera bientôt. Ainsi... »« Ah oui, monsieur, c'est cette brute, évidemment, qui aura déposé une plainte. »« Quelle brute, oui ! Ah, quelle brute !» s'écria Farjol. « On ne l'est pas plus !»« Je vous ferai observer, » répliqua l'agent. « En effet, je m'expliquerai avec le juge. Je comprends que ce n'est pas votre affaire. Je vous suis, monsieur, le temps de m'habiller. Je vais vous attendre à la porte de votre chambre. Dépêchez-vous. » Farjol entra dans la chambre, ouvrit les rideaux, et puis s'assit sur le bord du lit en murmurant « Nous sommes frais ». Emma brusquement se leva. « Qu'y a-t-il ? » Il reprit en frappant son genou avec sa main. « C'est cette brute de commandant qui a déposé une plainte. »« Quelle plainte ? Quoi ? Voyons, dis. Hein, c'est vrai, tu ne sais pas. » En quelques mots, il l'a mis au courant. Perte à la bourse, les fonds du commandant englobés, cet imbécile furieux s'adressant au parquet. Hein, il faut que j'aille m'expliquer avec le juge d'instruction maintenant. On vient me chercher de sa part, ajouta-t-il, en employant, pour ne pas trop inquiéter sa femme, une formule légèrement inexacte. Emma avait sauté à bas du lit, devinant que quelque chose de grave se passait, mais ne comprenant pas très bien. Tu as perdu de l'argent à la bourse ? « Oh, je l'avais gagné. Je ne t'en fais pas un reproche. Tu as perdu. C'est fini, n'est-ce pas ? Tu en seras quitte pour ne plus jouer. »« Attends un peu, ma chérie, que je dise un mot à ce monsieur. » Farjol ouvrit la porte de la chambre. « Je suis à vous dans un instant. Vous permettez que je m'habille ?»« Faites. » Et il referma la porte. « J'allais être à même de lui rendre cet argent dans 8 jours, à cet idiot, à cette brute. »« Alors, tu as perdu aussi l'argent du commandant ?» Oui. Il le réclame. Oui. Tu ne peux pas le lui rendre. Pas tout de suite. Il s'est plaint, tu dis. Ça s'appelle porter une plainte. Le parquet vous fait venir et... Qu'est-ce qui arrive ? Farjol dit. Je ne sais pas. Combien lui dois-tu au commandant ? Dit Emma. 50 000 francs. Emma poussa une exclamation. 50 000 francs, sans compter notre argent à nous. Oh, mon pauvre chéri, que c'est malheureux !» Farjol, soupirant, répondit. « Oui, c'est triste, enfin, ce n'est pas la peine de se désespérer. Ça s'arrangera peut-être mieux que je ne crois. Donne-moi mon gilet et ma redingote. Reviendras-tu pour déjeuner ? En passant une manche, il dit je l'ignore. Tu reviendras cet après-midi seulement, je le suppose. Je t'enverrai un mot dans tous les cas. Elle faisait des efforts pour comprendre la situation en sentant confusément un mystère. Elle tourna autour de Farjol, brossa ses vêtements, lui tendit son chapeau. Tout à coup, d'une voix qui tremblait, « Tu ne vas pas en prison, au moins ?» Farjol s'assit, attira sa femme à lui. « Ce serait possible si les choses ne s'arrangeaient pas, » murmura-t-il. Elle l'embrassa violemment, les larmes aux yeux. « Oh, mon chéri, mon Dieu, c'est vrai, tu vas en prison ?»« Oui, » dit-il, très accablé. Elle répéta plusieurs fois. « Oh, mon Dieu, mon pauvre chéri, qu'est-ce que tu vas devenir ?»« Oh, je t'en supplie, Emma, ne te tourmente pas trop, je trouverai une combinaison, laisse-moi partir. » Il se leva. Emma tomba sur une chaise, sanglotant. « Je pars. Tu recevras une lettre de moi cet après-midi ou demain matin. » Comme il s'avançait vers la porte, elle l'embrassa encore. Il lui rendit sa caresse en s'écriant « Ah, ce commandant est vraiment une sale bête !»« Il y a des gens bien méchants. Tu m'écriras tantôt, mon chéri. Le plus tôt possible, dis. Ah, je t'aime bien, va-moi. Ah oui, c'est une sale bête !» Il descendit avec l'agent. Un fiacre stationné devant la porte, Farjol monta le premier, l'agent s'assit à son côté. Il faisait froid. Dans le brouillard, une pluie fine et glaciale se balançait. À travers la glace du fiacre, couverte de buée, on ne distinguait pas les passants. Farjol frotta son doigt contre la vitre et murmura « Où sommes-nous » L'agent répondit « Au Châtelet, nous arrivons dans 5 minutes. » Farjol ajouta « J'ai les pieds gelés. » Ils traversèrent un pont, passèrent devant un palais de justice, sur lequel le fiacre s'arrêta. « C'est ici, » dit l'agent. Farjol releva le collet de son pardessus et suivit l'agent sans regarder où on le menait. Chez le concierge, on le fouilla. Il se prêta à cette opération sans paraître blessé. Ensuite, ils prirent un corridor où on ne voyait presque rien. Farjol marcha à côté de son compagnon, les mains dans les poches, les yeux à moitié fermés. Après le corridor, ils entrèrent dans le couloir des cellules. Une mauvaise odeur y régnait. Le gardien s'approcha, l'agent lui fit un signe, et une porte s'ouvrit. « Entrez, » dit le gardien à Farjol. Celui-ci se retourna vers l'agent qui s'était déjà éloigné, puis pénétra dans la cellule. « Est-ce que je peux avoir une tasse de bouillon ?»« Du bouillon, » dit le gardien, « je ne sais pas. Voulez-vous du café au lait ?»« Oui, je vais vous en apporter. » La porte se referma. Farjol alors aperçut une couchette basse dans un coin, une table en bois et une chaise. D'abord, il resta debout, immobile, les yeux fixés sur la lucarne d'où une vague clarté tombait. Puis il avança de quelques pas et toussa légèrement. Le gardien apporta bientôt du café au lait dans un verre et un morceau de pain. « Un prisonnier fera votre ménage, si vous préférez. Il vous en coûtera 6 sous par jour. » Farjol demanda « Je resterai donc longtemps ici ?»« Ça dépend du juge d'instruction, peut-être un jour seulement, peut-être 2-3 jours. »« Et le juge d'instruction, quand le verrai-je »« Peut-être cet après-midi même, peut-être demain, je ne sais pas, on vous servira votre déjeuner à midi. »« Bon. » Le gardien sortit. Farjol, assis sur sa chaise, commença de boire son café au lait en trempant du pain. Quand il eut fini, il éprouva un certain bien-être, alluma une cigarette. « J'ai moins froid aux pieds, » se dit-il. Il se promena de long en large, son pardessus déboutonné. Sa pensée se porta vers Emma. « Je lui écrirai en sortant de chez le juge d'instruction. » Il avait bien fait de tout lui avouer. Dans ces circonstances-là, il faut être franc, on évite ainsi des tracas et des surprises désagréables. En attendant la solution définitive, il valait mieux certainement qu'Emma sût à quoi s'en tenir. Au fond, l'ennui était pour lui seul. Farjol songea, l'arrestation sera dans les journaux du soir, ils vont s'en payer au cercle. Loin de l'émouvoir, cette idée lui procura un soulagement. Il se représenta les discours de Brazier, le commandant s'écriant « Ah, c'est bien fait, quel filou ce Farjol !» Le potin des camarades. Il sourit. Sont-ils bêtes, tous ces gens-là? Farjol pouvait se vanter d'une chose, il se fichait carrément de leur opinion. Oh là là, l'opinion de Brazier, du commandant, ce serait malheureux de se tracasser pour si peu. Et se rappelant le motif de son arrestation, il la trouva imméritée. Étant donné sa situation, ses antécédents, c'était maladroit de la part du parquet d'avoir agi aussi brutalement. On l'avait pris pour un filou vulgaire, pour un sélim, pour un bachelard, volant leurs clients sans vergogne. Il n'est pas possible que le juge d'instruction ne s'aperçoive pas de la différence. Aussi, en présence de ce magistrat, il n'allait pas finasser, se perdre dans des subtilités. Il raconterait son histoire simplement, comme un homme qui a commis une gaffe, qui la regrette et qui est disposé à en subir les conséquences. La résolution de tout avouer, de ne pas discuter, de se laisser faire sans résistance, le réconforta. Entre la justice et un simple particulier, la lutte est impossible. On n'a qu'une attitude à prendre, s'incliner. Il avait connu dans sa vie des situations autrement pénibles. Une fois, il était resté 2 jours sans manger et sans se coucher en plein hiver. Il se rappela avoir beaucoup souffert de cette dernière privation. Tiens, j'ai assez faim. Quelle heure est-il donc? On lui avait saisi sa montre en le fouillant. Voilà, pensa-t-il, une manie absurde. Pourquoi me priver de ma montre? Midi sonna à une horloge. Au dernier coup, le surveillant apporta son déjeuner sur un plateau de zinc. Une serviette recouvrait les plats. « Je vous ai pris du ragoût de mouton. Il est bon, généralement. » Farjolle flaira. « En effet, il a une excellente odeur. » Outre le ragoût, il y avait du saucisson, des haricots verts et un morceau de fromage de gruyère. Une boîte en fer blanc renfermait du café chaud et quelques gouttes de cognac brillaient dans un petit carafon. « Vous n'avez pas besoin d'autre chose ?» demanda le surveillant, à qui Farjolle paraissait un homme aimable et généreux. « Non, merci. Je viendrai vous ôter ça tout à l'heure. À propos, on m'a enlevé mon porte-cigare. Je vais vous le chercher. Il est permis de fumer. Ou plutôt, nous le tolérons quand nous avons affaire à des gens comme il faut. » Farjolle mangea avec appétit et après déjeuner, but lentement son café, en fumant un cigare, les jambes croisées, ainsi qu'il faisait chez lui. Vers 3 heures, le surveillant apparut de nouveau, accompagné d'un garde de Paris. « Monsieur, dit-il, le juge d'instruction vous fait appeler. »« Ah, tant mieux !» s'écria Farjolle. « Suivez le garde. »« Qui est mon juge d'instruction ?»« Monsieur Ardouin. » Le garde de Paris et Farjolle franchirent la cour de la Sainte-Chapelle et arrivèrent dans le vaste couloir du palais de justice où sont situés les cabinets des magistrats. Le nom de M. Ardouin était bien connu de Farjolle. Il l'avait lu souvent dans les journaux à propos de crimes célèbres. Fréquemment d'ailleurs, les journaux s'occupaient de sa personne. Des chroniqueurs traçaient son portrait et affirmaient qu'il lisait dans l'âme des coupables. Parmi les échos, on citait de lui des anecdotes et des mots d'esprit relatifs aux nombreux criminels dont il avait eu à s'occuper au cours de sa carrière. On lui devait la condamnation des 3 derniers assassins, parmi lesquels un, entre autres, aurait certainement échappé à un juge d'instruction moins fort. Mais M. Ardouin l'avait fait tomber dans un piège excessivement adroit et le misérable avait fini par avouer son crime. Le juge était encore sorti grandi de cette affaire. La légende voulait aussi que M. Ardouin fût, dans son genre, un artiste. Les grands criminels, disait-on, l'intéressaient, et il se plaisait à jouer avec eux. Il les souhaitait impassibles, énergiques, entêtés, rudes à vaincre. Au milieu de la lutte, il se surprenait à les aimer. Il les admirait quand ils se défendaient bien, concevait du mépris lorsqu'ils faiblissaient. Dans le fameux procès Vardi, une femme coupée en morceaux par cet Italien, lui et le coupable avaient fini par s'estimer réciproquement et à éprouver secrètement l'un pour l'autre une réelle sympathie. Le jour qu'on décapita Vardi, Ardouin fut même triste. Ces choses excitaient dans le public un grand enthousiasme. « Il n'aura pas beaucoup de mal avec moi », pensa Farjolle. On l'introduisit dans le cabinet du juge d'instruction. Assis à son bureau, M. Ardouin maniait un coupe-papier de la main droite et de la gauche agitait un trousseau de clés pendu à la serrure d'un tiroir. C'était un homme de 55 ans, maigre, rasé, chauve. De gros sourcils noirs cachaient ses yeux. À son côté, le greffier se tenait, prêt à écrire, la plume penchée sur une feuille de papier blanc. Farjolle, décidé aux aveux les plus complets, n'éprouvait aucune émotion en sa présence. « Vous avez été arrêté sur la plainte de M. Isidore Barret. Vous connaissez M. Isidore Barret ?»« Beaucoup, » répondit Farjolle. « Nous sommes du même cercle. » Vous êtes dans les affaires, continua le juge d'instruction, moitié agent de publicité, moitié boursier. Vous avez fondé un journal, la Bourse indépendante, dont le but était d'extorquer de l'argent à des clients sous le prétexte fallacieux d'opérations de bourse. La suite de l'instruction nous apportera des détails que nous n'avons pas encore. Monsieur Isidore Barret, ancien militaire, décoré de la Légion d'honneur, vous a confié des fonds, comme le prouve ce reçu de vous, qui est en règle. Ces fonds, vous n'avez pu les restituer car vous les avez perdus à la bourse. Voici le relevé de votre compte chez le coulissier, monsieur Stirman, rue Vivienne. Vous reconnaissez que ces faits sont exacts? Farjol répondit doucement. À peu près. Ah, fit le juge. Je dis à peu près, continua Farjol, car je n'ai pas perdu tout l'argent du commandant, je n'en ai perdu qu'une partie. On trouvera le reste, soit 30 000 francs, en rente sur l'État dans ma caisse. Nous verrons bien. Aucun de mes clients de Paris ni de province n'a jamais eu à se plaindre de moi, et je n'ai jamais joué avec leur argent, comme Monsieur Sélim, par exemple. Votre cas est pourtant identique à celui de Sélim et plus récemment de Bachelard. Il constitue un abus de confiance et une escroquerie. Je le sais bien, approuva Farjol d'un air indifférent et poli. J'ai été entraîné, je le regrette énormément. Monsieur Hardouin le regarda avec son œil froid et songea, il n'est pas malin. Il eut un désappointement, lui posa encore quelques questions brèves. Farjol avait hâte que tout fût terminé pour qu'on le laissât tranquille. Maintenant, le scandale était fait, rien ne pouvait l'atténuer. Il n'y a qu'à attendre la fin, patiemment, sans trop se faire de la bile. Oserais-je vous demander si l'instruction sera longue? Monsieur Hardin dit d'un ton dédaigneux, ce n'est pas probable. Il ajouta, vous serez transféré à Mazas demain matin. Est-ce que ma femme pourra venir me voir? Votre maîtresse, fit Monsieur Hardouin. Non, reprit Farjol, ma femme légitime. Je lui donnerai l'autorisation d'aller vous voir à Mazas. Et puis-je lui écrire ce soir? Oui. Monsieur Hardouin le congédia. Farjol s'inclina devant lui avec une courtoisie parfaite. Le garde de Paris le ramena au dépôt. Il écrivit à Emma, dîna, puis se coucha. Il mit son pardessus sur son lit afin d'avoir chaud et ressentit un soulagement en s'étirant sous la couverture, quoique les draps fussent durs au toucher. Il s'endormit rapidement, la tête un peu lourde, se félicitant toutefois que son caractère lui permît de supporter avec résignation une aventure aussi désagréable. Combien de gens à ma place se désespéreraient, pensa-t-il, en fermant les yeux.